Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Méga, bienvenue sur Underscore nos amis Cécile, Annie et même Eman vous évoqueront la vie des données sur un petit nuage. Enfin les clouds ou quoi?
Eh ben ouais. Bonjour Radio Méga, bonjour, bonjour, c'est Cécile.
Bonjour Cécile.
Bonjour Cécile, tu n'arrives plus à trouver tes mots.
Alain Delon sort de ce corps.
Alors ici Anya et nous avons aussi Mimeman comme d'habitude.
Coucou.
Voilà, nous sommes de l'association AAA, vous pouvez nous retrouver sur AAA.fr. Alors, nous allons vous développer notre chronique avec...
un sujet d'actu, il y a plusieurs sujets d'actu même.
Oui, il y a plein de sujets.
Ah, moi je reste professionnelle jusqu'au bout. Hein.
Oh, il faudrait voir la vidéo.
Ah oui, parce que là, il y a des choses à voir.
Alors, des sujets d'actu, donc.
Des sujets d'actualité, puis une petite pause musicale, notre sujet du jour sur les données médicales, puis notre rubrique agenda, et pour finir, l'astrologique.
Tout à fait, tout à fait.
On passe à l'actu.
À l'actualité.
Alors, l'avion Solar Impulse fini sa traversée du Pacifique.
Et il a fait ça la semaine dernière.
Au moment où on vous tourne, effectivement, pour nous, ça se passait la semaine dernière, parce que vous allez écouter donc le 2.
Voilà, on s'est enregistré dans les conditions du direct.
Oui, mais en même temps, on n'est pas dans le direct, donc on ne peut pas se permettre
dans
de
les
dire. Les gens le connaissent déjà, donc voilà, on est dans les conditions du direct. Mais voilà, c'est pas au jour où vous allez l'entendre, effectivement. Donc du coup, ça s'est passé il y a un petit moment, et donc tu voulais réagir par rapport à ça.
Et ben oui, parce que c'est quand même quelque chose de bien.
Des
avions qui polluent pas trop. Donc c'est une des expériences les plus époustouflantes que j'ai jamais vécues, a lancé le pilote suisse Bernard Picard à sa descente d'avion en se réjouissant d'être en Californie, la terre des pionniers.
Mais il a passé combien de mois déjà à Hawaï? Tu m'étonnes que ça s'est bien passé pour lui.
Oui, bizarrement, il a mis très longtemps pour réparer son avion qui avait déjà fait un premier périple de 5 jours et de 5 nuits.
Il a bronzé, il a chanté du Elvis, c'est moi qui te le dis. Hein.
Il a passé du temps au Japon aussi.
Il faut surtout s'imaginer que quand il fait nuit, il tourne que sur batterie.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de soleil.
Et lui, il dort, il fait des pauses de 20 minutes, mais il ne peut pas s'endormir trop longtemps parce que sinon, il n'y a
c'est
plus de pilote dans l'avion.
Oui,
mais où est-il passé?
On passe à la suite, donc l'adoption par le Parlement européen du texte encadrant l'usage des données personnelles.
Et en parlant de données personnelles, on a un film qui est sorti, qui est actuellement au cinéma, qui est donc autre que Civil War, où exactement, pour rebondir sur l'usage des données personnelles, on a donc Civil War qui traite aussi ce sujet-là, mais avec le côté des mutants, en fait, où on veut les mettre...
Les fichiers.
Les fichiers, savoir où est-ce qu'ils sont et tout, pour éviter le côté dangereux. Et on a donc deux camps, on a le camp qui est pour, le camp qui est contre, et donc cela crée une guerre civile tout à fait, mais avec des super-héros.
Alors justement, il y a eu trois textes d'adopter, donc un premier concernant le règlement sur la protection des données à caractère personnel, ça c'est vis-à-vis des entreprises.
Ça c'est dans la vraie vie, c'est pas que dans les films.
Alors le second, c'est une directive qui accompagne le règlement et l'utilisation des données personnelles par les services de police et de justice dans les États membres, donc les États de l'Europe.
De l'Union, ouais.
Et le troisième adopté est relatif à l'utilisation des données des passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Donc tous les gens qui passent par les aéroports et qui donc ont leurs données stockées.
Quand vous passez, il y a.
Au cas où.
Eh ben oui.
On sait jamais.
La trappe cloud. Pardon.
Voilà. Donc. À travers ça, on a une législation qui se met en place pour la protection et aussi l'usage des données personnelles, mais. Quid pendant l'état d'urgence?
Ah oui, le quid pendant l'état d'urgence, apparemment les données Periscope, donc vous savez, c'est une application que vous avez sur vos mobiles qui vous permet de streamer en direct grâce à votre caméra avant ou arrière, donc à vous de choisir, de vous faire plaisir. Vous avez des commentaires en direct des gens qui peuvent liker l'événement en direct aussi en appuyant directement sur l'image. Et vous pouvez donc effectivement, on va dire, faire votre petit fil d'actualité direct.
C'est comme une télé en direct, mais
tout
sur
à fait.
Le téléphone.
Mais sur votre téléphone, c'est vous qui lancez le stream, c'est vous qui lancez votre information et les gens peuvent se connecter si vous avez envoyer le lien par le biais de Twitter ou Facebook, donc les réseaux sociaux en général. Et cela permet effectivement de streamer des événements qui se passent. Et ce qui se passe...
La nuit debout.
Tout à fait.
Et le streaming, c'est en fait filmé en live.
Tout à fait, en direct. Et ce qui se passe, c'est qu'apparemment, on aurait eu des infos comme quoi la police a eu le droit de récupérer toutes vos informations par rapport au Periscopeur. Donc on va dire, oui, les gens qui...
Ceux qui enregistrent,
qui aurait donc filmé pendant l'état d'urgence, les nuits, enfin pas l'état d'urgence, mais les nuits debout.
Et oui,
effectivement, c'est aussi l'état d'urgence.
C'est dans l'état d'urgence.
Voilà. Et en étant debout, ben, apparemment, vous avez été référencé par la police. Apparemment, les données ont été récupérées.
Voilà, c'est un peu de la délation,
tout ça. On
se
demande bien pourquoi, mais bon. Voilà.
Ah, on se retrouverait presque pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bon. Bah,
non, mais bon, il faut quand même rester vigilant parce qu'on tient à notre vie privée.
Tout à fait.
Et voilà. Sinon, on n'est plus en démocratie.
Donc, le big data, tu vas nous parler de big data avec le ministère de la Santé qui lance une consultation publique.
En effet, Marisol Touraine invite les Français à donner leur avis sur l'utilisation anonyme de leurs données de santé et sur les conditions dans lesquelles elles pourraient être utilisées. Donc ça parle de big data, d'open data, de tout un tas de choses. Et effectivement, autant il y a des usages qui sont intéressants, autant quand c'est revendu à des sociétés privées, on peut se poser des questions.
Pas bien.
Voilà, donc ça sera justement l'objet du sujet tout de suite après la pause musicale.
Et oui, mais nous allons terminer par Captain Civil War.
Alors, on en a déjà parlé brièvement, mais effectivement, c'est pareil, ils sont en pleine guerre, comme je disais. Ce qu'ils ont mis en place dans cette partie-là, on va dire, c'est adapté d'un des comics qui était donc Superhuman Registration Act, où en fait tous les super-humains étaient dans une sorte de registre par rapport à leurs actes. Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Quel est leur type de pouvoir? Puisque justement, on a des super-héros, enfin des super-pouvoirs, enfin des gens...
On veut tout connaître de toi.
Voilà, qui sont peut-être gentils ou méchants, mais on veut savoir quel pouvoir ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels dégâts vont arriver en cause. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils veulent mettre un contrôle. Donc on a d'un côté les partisans du contrôle, qui veulent absolument contrôler les super-héros ou les super-vilains, si vous voulez, et de l'autre côté, les gens qui veulent leur liberté. Donc Captain America, qui était un partisan de la liberté, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il est contre cette envie de nous voir contrôler. Et justement, on leur dit, vous ne pouvez pas agir impunément. Oui, mais j'ai sauvé des gens. Donc voilà, il y a tout un tour de contrebalance. Donc je vous invite à aller le voir, à la limite, si vous êtes intéressé.
Et voilà. Et toujours dans le thème des données personnelles, de comment ça se passe après la pause musicale que nous allons avoir, nous allons parler des données médicales. Mais tout de suite, écoutons Sinusic Lisboa by Alan Walker. Donc un petit peu de plage pour vous faire dépayser. Voilà, Sinusic Lisboa by Alan Walker.
Morito, chouchou, beignet, pina colada.
C'est bon ça.
Ah oui, j'ai pris un coup de soleil.
Eh ben justement, on va parler santé.
Et surtout des coups.
Et surtout, aïe, nos données médicales.
Tout à fait.
Et oui, alors que nous-mêmes sommes invités par les fabricants d'objets connectés à confier de plus en plus d'informations médicales à des tiers, sans forcément avoir le contrôle sur leur utilisation, on peut se demander si ce que fait notre toubib de nos données aussi, hein, parce que les médecins aussi gèrent des données.
Ils les recèlent aux pharmaceutiques, aux groupes pharmaceutiques, qui sait.
Ben, je sais pas.
Alors justement, comment sont traitées nos données?
Alors ben, là... très mal.
Pas forcément. Il y a des médecins qui s'intéressent à la question, hein. Mais c'est vrai que la plupart des médecins utilisent les logiciels qu'on leur vend. Hein. C'est des boîtes privées qui font ça. Ou alors même des logiciels gratuits avec des guillemets, plein de publicité. Il y en a qui s'en plaignent en ce moment. Mais qui dans tous les cas sont propriétaires, donc on sait pas trop ce qu'ils font, hein. Ça nécessite de faire confiance à ces entreprises qui vendent ça et qui sont à but lucratif, donc ben voilà, on sait pas ce qu'ils font derrière. Il existe quand même des logiciels libres, mais
ouais.
Bon, ça existe, mais ça reste quand même compliqué d'obtenir les agréments nécessaires des ministères ou même l'accord pour certains protocoles comme Sésame Vital qui sert à utiliser la carte vitale et envoyer toutes les télédéclarations.
Mais sinon, pour info, par rapport à tout ce système de médecine ou autre, j'ai un exemple, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Nos Chers Voisins, qui est un truc qui est basé à Paris, où en fait, ils ont réaménagé un hôpital qui allait être détruit, qui va être détruit dans 5 ans à peu près. Donc actuellement, il est utilisé par des associations. Donc on a plein d'associations là-bas dedans qui ont pu utiliser les locaux.
Et ils ont fait du ménage.
Et en faisant du ménage, ils se sont rendus compte que les gens, enfin en tout cas le personnel médical, est parti en laissant tout sur place. Donc les informations médicales de pas mal de clients, enfin de patients, pardon. C'est vrai que, bon,
oui, voilà. Oui, c'est vrai que les clients, enfin les patients, voilà. Pardon.
Ma langue a fourché, peut-être à mauvais ou bon escient. Mais voilà, il faut savoir que ben ils ont tout laissé sur place. Donc en fait, il y a les informations des gens, le nom des gens qui étaient vivants, qui étaient morts, les noms des chambres. Enfin voilà, on a beaucoup d'informations et effectivement, nous on s'en fichait à titre on se balade dans cet hôpital, tu t'en fiches de savoir qui a été soigné, pour qui, pourquoi. Mais effectivement, l'anonymat, ben, si quelqu'un arrive et se dit « Bah tiens, si je mettais tout ça et que je mettais sur Internet, qui c'est qui pourrait m'en empêcher ?»
Voilà.
Et oui, la fuite de données n'est pas ancienne, hein, mais elle perdure aussi. Hein. Aussi, le problème de nos données aujourd'hui, c'est de savoir qu'elles sont très, très souvent stockées maintenant sur des clouds.
Voilà, donc, au final, je me dis qu'on le mette sur informatique ou qu'on le laisse sur papier, au final, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis, hein, s'il les laisse.
Le papier, il faut aller le trouver, oui. Photocopier. Alors que les données, tu peux les dupliquer.
T'inquiète pas.
La difficulté,
s'ils ont la motivation, ils le feront.
Ce qui s'est passé là dans ce cas précis, c'est qu'il fallait être présent physiquement dans l'endroit pour avoir accès aux données. Oui. Tandis que maintenant, avec le cloud, sachant qu'il est pratiquement hébergé qu'aux États-Unis, toutes nos données médicales sont hébergées. Chez l'oncle Sam, quand même.
Bon, pour le moment, peut-être pas nous, c'est peut-être plutôt les gens de l'oncle Sam qui sont hébergés, et nous, peut-être ça arrive, mais pas tout de suite, à mon avis.
Il y a encore des hôpitaux qui gèrent leurs données eux-mêmes, mais le problème, c'est qu'ils sont pas vraiment formés à la sécurité informatique. Donc, du coup, il se passe des choses comme tu as raconté, où effectivement, on laisse des disques durs traîner, ou alors il y a des trous de sécurité qui sont pas bouchés. Alors, on connaît quelqu'un qui bosse dans ce domaine et qui a dû passer quelques nuits blanches à boucher des trous.
Cause des ransomware.
Alors, il y a ça aussi, il y a encore tous les ransomware qui débarquent, qui chiffrent les données, puis après, faut payer tant.
Mais qu'est-ce que les ransomware, pour expliquer à nos auditeurs?
Un ransomware, c'est un logiciel qui va vous demander une rançon parce qu'il a chiffré vos données.
Il a pris en otage vos données.
Sans vous en donner la clé. Donc voilà, c'est un truc un peu à la mode en ce moment, malheureusement.
Un nouveau système des Black Hat au final, donc des pirates qui sont plutôt mauvais escients en fait. Voilà.
C'est des méchants hackers qui vous envoient souvent un mail avec un fichier et il faut surtout pas l'ouvrir parce que.
Oui, et même quand ça vient de quelqu'un que vous connaissez. Il peut y avoir aussi des usurpations d'identité, donc méfiez-vous.
Oui, parce qu'ils arrivent à trouver des carnets d'adresses qui passent, etc. Donc on arrive à faire de l'ingénierie inverse.
Et ça, on en parlera bientôt.
Voilà. Et donc on peut arriver à savoir que vous connaissez un tel, et puis on va vous envoyer un mail. Et donc même si ce mail vient de quelqu'un que vous connaissez, si il a une tronche un peu suspecte, il y a un peu plus de fautes d'orthographe que d'habitude, voilà, il y a une pièce jointe, a priori on n'a aucune raison de vous l'envoyer, évitez de l'ouvrir, demandez à la personne en question est-ce qu'elle vous a vraiment envoyé un mail, parce que c'est un peu gênant quand même de se faire chiffrer des données comme ça.
Et voilà, et au final, par rapport à tout ça, par rapport à nos données médicales, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions à mener?
Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle.
Tu peux plus, tu es fini.
Non, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle, notamment
laisse-toi faire.
Le DMP, donc le dossier médical personnel. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce que ça change de nom. Au bout d'un certain nombre de millions que ça coûte, en fait, il change de nom pour s'amuser, quoi. Et puis il y a plein d'autres choses comme, bah, j'avais déjà cité le cas des PPC, les machines à pression positive continue pour les traiter l'apnée du sommeil, qui met plein de données sur une carte SD, puis même le médecin il n'y a pas accès parce qu'en fait c'est la personne qui vient poser la machine chez vous qui vient relever les données et puis ils envoient juste deux pages comme ça de rapport au médecin, mais sans mettre les données brutes. Donc même le médecin n'a pas accès des fois à certaines données, c'est un petit peu gênant. Et puis donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bah, si on est professionnel de santé, il faut s'informer, se poser des questions, essayer des logiciels libres qui existent, hein, comme MendinTux ou FreeMedForms, et puis essayer d'éviter les services en ligne gratuits, hein, parce que utiliser Google Docs pour
des données médicales, c'est très mauvais.
Voilà, c'est pas une très très bonne idée.
On vous mettra les liens sur notre blog AAA.fr pour justement vous puissiez avoir accès à ce genre d'informations.
Et puis, bah, si on est patient, il faut s'énerver un peu, faut pas être que patient. Il faut montrer l'exemple, hein, en évitant les applis non libres, parce que même
ça, c'est dans le cadre où les gens effectivement ne veulent pas que leurs données médicales soient communiquées, bien sûr, parce qu'il y en a peut-être qui s'en fichent, mais il faut savoir.
C'est un choix, mais voilà.
Un autre plan aussi à voir dans l'ensemble. Effectivement, ça peut renseigner les groupes pharmaceutiques, mais il y a la possibilité aussi. D'une autre chose, c'est que les médecins peuvent communiquer certaines maladies ou certains éléments qui peuvent aider d'autres médecins. Donc, il ne faut pas non plus voir qu'il n'y a que du négatif. Il y a sûrement un positif de base qui, forcément, est l'élément mis en avant et déclencheur. Et derrière, on a effectivement cet aspect négatif. Est-ce qu'on pourrait un jour nous donner le choix que nos informations peuvent effectivement être étudiées pour un groupe pharmaceutique et d'autres ? Non. Puisque ce serait aussi un choix, puisque c'est nos données, elles nous appartiennent, à nous savoir si on veut les vendre ou non.
C'est la question effectivement de la balance entre la publicité et le fait que ce soit pas public.
Et voilà, et d'avoir confiance en ton médecin quand tu
veux
le voir.
Il y a la question de la confiance, il y a la question de l'anonymisation des données, parce qu'il y a des données qui sont pertinentes justement à être publiées en open data. Mais du coup, il y a les questions de traitement derrière avec du logiciel libre, avec tout un tas de choses comme ça.
Tout à fait.
Et puis, on peut aussi éviter d'utiliser certaines choses comme les Fitbit, etc. Tous les bracelets connectés, donc qui vont avec une appli propriétaire. Oui, mais du coup, le jour où l'application marche plus sur ton téléphone, bah ton bracelet, c'est pareil, il sert plus à grand chose.
C'est pas grave.
Alors, il y a des gens qui ont fait l'ingénierie inverse sur une version.
Tu contrôleras l'obsolescence programmée.
Tout à fait.
Il y a des gens qui ont fait l'ingénierie inverse sur une version du protocole Fitbit, mais pas tous. Donc voilà. Et puis, bah, vous pouvez aussi suivre certains comptes Twitter comme MedTeamLim par exemple, qui parle de ces sujets. Et puis, bah, peut-être il faudrait informer nos toubibs et peut-être à l'heure du numérique exiger un serment d'Hippocrate.
Comme e-numérique. Et voilà. Et donc, merci pour le sujet,
très condensé.
Voilà, nous passons à l'agenda.
Alors, une heure pour découvrir les villes intelligentes. Qu'est-ce que les villes intelligentes? Comment le numérique change la ville? Est-ce que cela améliore la qualité de vie des habitants? Quelles sont les perspectives? Je ne sais pas s'ils aborderont les questions de vie privée, mais en tout cas, ça se passe à Les Clévaux, Cité des Savoirs.
Non, Le Clévos.
Les Clévos, je ne sais pas comment
ça se dit. Ça se dit Clévos.
Clévos, ouais. Cité des Savoirs à Étoile-sur-Rhône. Donc, au cours de ce une heure, il vous est proposé de faire un panorama des villes intelligentes au nord et au sud, de découvrir les initiatives et projets à travers des exemples et d'échanger sur les perspectives de développement.
L'astrologique, donc qui a consulté la boule de cristal de Madame Irma?
Alors je vois dans la SF que paix et prospérité, ou live long and prosper pour certains.
Cosplay, cap ou pas cap?
Gamer, vous avez les yeux rouges? Non, ce n'est pas une conjonctivite, vous avez juste trop joué.
Otaku, vous saignez du nez? Mettez la pédale douce sur les hentai.
Technophile, trop de pépins dans votre vie? Ouvrez votre fenêtre vers un nouveau système et adoptez des pingouins.
Demo Maker, vous êtes coincé, faites un petit toucher fractal de la carte mère.
Oh oui, ce petit toucher fractal.
Et c'est sur cette note poétique et que nous vous rendons l'antenne. Au revoir Anya, au revoir Cécile.
Merci Abimène, au revoir, à très bientôt.
Au revoir
Merci à
Radio Mega Hater.
Au revoir.